France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et désormais à la tête de la revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque samedi, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité de la semaine et en particulier aujourd'hui sur la libération enfin de l'écrivain Boualem Sansal, une libération heureuse et des questions qui demeurent sur la relation entre la France et l'Algérie. Cette relation, elle est au cœur du livre de notre invité pour le débat. Nous recevrons aujourd'hui un économiste, spécialiste de la mondialisation, de l'innovation, président de l'université Paris-Dauphine, puis Paris Sciences et Lettres, et qui signe un livre personnel de l'auto-histoire qui raconte merveilleusement l'immigration algérienne en France. Le livre s'appelle Le Prénom, il est édité au Seuil, et son auteur, El Mouhoub Mouhoud, sera avec nous pour le débat, mais pour leur place au duel.
Le grand face-à-face, Thomas Negarov sur France Inter.
Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour. Bonjour.
Allez, ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé. Retour pour commencer ce duel à l'Assemblée nationale, où la réforme des retraites a été suspendue à la majorité. Mais pour Gabriel Attal, le vote de cette semaine ne règle rien.
Nous sommes lucides sur le fait que le débat que nous avons aujourd'hui appartient déjà au passé. La réalité, c'est qu'on est en train de discuter du fait de savoir si on doit ou pas retirer un morceau de scotch sur un système des retraites qui prend l'eau de toutes parts, et que ça n'est plus les paramètres qu'il faut bouger, c'est le système qu'il faut changer.
Gilles, on avait tous l'impression que cette semaine, ça serait un vote très important sur les retraites. Est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de Gabriel Attal que ce n'est qu'une solution très, très temporaire ?
Non, je crois que c'est quand même un vote symbolique et important, ce qui s'est passé. Je trouve une des difficultés, c'est de savoir quelle est la bonne échelle de temps pour analyser ce vote. On peut se concentrer sur ce qui s'est passé mercredi, et dans ce cas-là, là, si on analyse la configuration du vote, elle est tellement baroque que même avec beaucoup d'efforts de créativité, c'est difficile de déterminer quel clivage s'est manifesté à l'occasion de ce vote. On votait pour à la fois les députés socialistes, une grande partie des députés écologistes, François Ruffin, les députés du Rassemblement National, une partie des Républicains, une partie du Modem. On votait contre la France Insoumise, une grosse partie des Républicains, un peu de Renaissance. Qui est capable de dire quel est le clivage qui se dégage ? Donc, ce n'est pas la bonne échelle de temps. Il faut dézoomer.
Okay.
Si on dézoome de 2 mois, si on repart depuis le mois de septembre, je crois que ce qui s'est passé, au moins d'un point de vue politique, est une victoire du Parti Socialiste qui a réussi à mettre à l'agenda, à remettre à l'agenda cette réforme, ce qui, dans le contexte de l'époque, était loin d'être évident, et puis qui a réussi... à bâtir un compromis, à créer même un rapport de force avec le Premier ministre et avoir le texte qui a été voté. Si on dézoome davantage encore et qu'on repart de 2017, on mesure l'échec, même le double échec d'Emmanuel Macron. Mmh. Il y a eu l'échec du premier Macron, le Macron disruptif, avec l'incapacité pendant le premier quinquennat à basculer sur la retraite à points. Et puis, il y a eu l'échec du deuxième quinquennat du Macron paramétrique, où la réforme qui a été adoptée, la réforme Borne, dans les conditions que l'on connaît, est maintenant suspendue, faisant que le bilan d'Emmanuel Macron, le bilan réformateur d'Emmanuel Macron de ce deuxième quinquennat, est réduit à peu près à rien. Reste... ça, c'était la focale arrière. Maintenant, ah oui. S'il y a la focale avant, et c'est ce à quoi invitait Gabriel Attal, que l'avenir du... c'est une suspension. Et le mot dit la réalité. Quand on est en suspension, à un moment, il faut retomber. Et c'est ça qui va être le débat, et peut-être le bon débat, on va y revenir, sans doute, des 2 prochaines années.
des deux prochaines années, ou peut-être de la présidentielle de 2027, c'est ça que tout le monde a en tête. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ça qui explique aussi ce vote hétéroclite baroque, a dit Gilles, au sujet des retraites? Tout le monde a l'œil sur 2027, est-ce qu'on pourrait leur dire?
Bien évidemment que c'est ça qui explique, et que c'est ça qui contribue, me semble-t-il, à dévaloriser une fois de plus la parole publique. Parce que si on résume, Gilles a présenté les votes. On a donc des groupes qui se sont séparés en trois types de votes malgré les consignes, c'est-à-dire la droite républicaine, les macronistes, le modem, où on trouve des pour, des contre, des abstentions. On a donc les insoumis qui ont voté contre alors qu'ils sont pour la fin de cette réforme. On a les communistes, même chose. On a Renaissance, c'est l'inverse. Ceux qui ont voté contre alors qu'ils étaient pour. Enfin bon, on a le Rassemblement National qui a voté pour mais qui en fait ne votera pas le texte final. Enfin, tout ça donne une impression d'absence totale de cohérence et de capacité de la parole publique à dessiner une vision claire et une vision surtout qui se prolonge sur le temps long. Gilles a eu raison de parler de ces différentes temporalités parce que ça nous rappelle une chose, c'est que nous sommes englués dans ce débat sur les retraites depuis déjà très longtemps. Il est important. Mais de n'avoir ce débat sur les retraites que ponctuellement, sans jamais le rattacher au reste des problématiques économiques, aboutit au blocage que nous vivons aujourd'hui. En 2017, le projet de réforme à points sortait de cela. Ça a été torpillé par Édouard Philippe qui a voulu y adjoindre un âge pivot, alors même que c'était le contraire de la philosophie d'une réforme à points. Et nous nous retrouvons avec cette guerre de tranchées depuis toutes ces années et qui risque fort, et c'est ça qui m'inquiète, de se rejouer pour 2017. C'est-à-dire que 2027. C'est-à-dire que si la campagne électorale de 2027 se cristallise autour de ce débat dont on voit qu'il est mal posé puisqu'il n'est pas lié à la question plus large de la façon dont on recrée de la richesse en France, dont on s'appuie sur la production, à la façon dont on peut retrouver une marge de manœuvre en réfléchissant aux questions, par exemple, de pilotage de la monnaie par la Banque Centrale Européenne et du lien, en fait, entre l'activité économique et l'évaluation de la monnaie. Tous ces sujets-là, si on les laisse de côté une fois de plus pour ne parler que de savoir qui va payer dans cette réforme, est-ce que ce sera un peu plus les retraités, un peu moins, est-ce que ce sera un peu plus les actifs, alors nous aurons une fois de plus perdu une occasion.
Gilles ?
Ouais, moi je vais être plus optimiste que Natacha. En fait, je suis frappé de voir comment depuis 20 ans, la question des retraites est de manière quasi ininterrompue au cœur du débat public, sauf pendant les campagnes présidentielles. Et là, peut-être que nous avons la chance, compte tenu de cette suspension et du fait que, évidemment, elle ne règle pas les questions d'avenir, que la prochaine campagne présidentielle, qui, de surcroît, peut être une bonne campagne présidentielle, puisqu'elle fait partie de ces catégories de campagnes dans lesquelles le président sortant ne se représente pas et que ce sont souvent de meilleures campagnes. Donc, peut-être qu'on va pouvoir enfin traiter cette question-là. Et une fois qu'on met le doigt dans le débat sur les retraites, eh bien, il faut tirer le fil.
Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que si le débat, c'est uniquement 60 ans, 65 ans, et qu'on ne s'interroge pas sur le travail, parce que c'est aussi ça qu'on a reproché à la loi Borne, ne pas mettre assez la question du travail d'abord, ou de la production de richesse, Natacha en parle régulièrement ici, de la production de richesse dans le pays, ça risque d'être un débat un peu stérile, ou en tout cas très idéologique.
Alors, je partage à moitié ce que vous dites. Oui, il faut que ça traite aussi de la question du travail. Oui, évidemment, il faut que ça traite aussi de la question du cadre dans lequel tout ça se passe, et donc de la question de la production. Mais que les Français aient des options sur l'avenir du système de retraite. Est-ce que nous supprimons l'âge légal? Parce que c'est quand même, je trouve, il y a une grande victime de cette suspension, c'est l'âge légal, sur lequel le débat se cristallise depuis maintenant des années, que les Français peut-être à raison, considère comme un élément injuste parce qu'il traite de manière indifférenciée des gens qui sont dans des situations différentes. Mais si on supprime l'âge légal, qui est d'ailleurs la proposition, on entendait, de Gabriel oui. Attal, et qu'on se concentre sur la durée de cotisation, ça pose beaucoup d'autres questions derrière, la question de la pénibilité, ça pose... Et donc ces questions, la question
oui,
de...
Oui, ça engage d'autres questions, bien sûr.
Voilà. Et que ces questions-là, les projets, d'autres, Jean-Luc Mélenchon continue à dire retraite à 60 ans, que c'est un élément de crispation depuis maintenant des années qui soit tranché par le suffrage, je trouve que ça serait quand même un progrès.
Un progrès oui, démocratique
mais...
au moins, oui.
Oui, mais on est bien d'accord que penser la question des retraites sans penser la question de l'âge d'entrée sur le marché du travail, donc la question de la formation en particulier, de l'apprentissage, des filières professionnelles, éviter de penser le temps de travail global. Si on rate tous ces débats-là, on aura tout perdu. Et la question, alors on voit, bien sûr qu'il y a une difficulté sur la question de l'âge légal. D'ailleurs, c'est intéressant, il faut se souvenir comment s'est passé le débat sur la première réforme des retraites, celle à point. Avant donc que Édouard Philippe ne la torpille, c'est qu'il commençait à apparaître toutes les difficultés du sujet. C'est, selon moi, une façon intelligente de prendre le problème. La CFDT était d'accord. Sauf que Emmanuel Macron, pendant la campagne, avait dit « un point vaut un point, c'est ça la justice ». Et vous aviez commencé à avoir dans les débats, bah, par exemple, les danseuses de l'Opéra de Paris qui disaient « mais attendez, un point vaut un point, nous, on n'est pas les, on fonctionne pas de la même manière ». Et comme ça, on voyait à quel point, en fait, cette question est très compliquée si on veut être juste. Mais justement, il va falloir aller regarder sous le capot, mais relier tout ça. Encore une fois, nous sommes un des pays où on arrive tard sur le marché du travail, où on a allongé artificiellement la durée des études pour une formation qui n'est pas meilleure. Tout ça doit être traité.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Les terroristes ont trouvé beaucoup plus courageux qu'eux. Paris a tenu. Vous avez tenu. La France a tenu. La République a tenu. Dans l'urgence, par la fraternité, par la justice, par la vérité, par l'amour de la vie, nous avons tenu. Et chacun y a joué son rôle.
Emmanuel Macron, à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, c'était jeudi soir à Paris. Natacha, la République a tenu, dit le président de la République. Si on se projette aujourd'hui, est-ce que la République est plus forte qu'en 2015? Et est-ce que, face à un drame de la même nature aujourd'hui, nous tiendrions de la même manière?
C'est toute la question et elle est... Absolument abyssal. Pourquoi? Parce que on voit bien, par exemple, que sur la mémoire de l'attentat du contre Charlie Hebdo et l'hypercacher, par exemple, nous savons tous en fait que ça ne se passerait pas de la même façon, qu'il n'y aurait pas forcément 4 millions de personnes et que des débats surgiraient immédiatement. Et ça, c'est
sur quoi? Des débats sur quoi?
Sur la question... Alors, ça avait commencé à surgir un petit peu après le 7 janvier, sur l'opportunité, par exemple, de dessiner le prophète, etc. Et là, alors sur le Bataclan, ce serait évidemment différent. Mais premier point, heureusement qu'il y a des célébrations pour maintenir cette mémoire et pour ne pas s'habituer à ces massacres, parce qu'il y en a eu qui sont arrivés après. Il y a eu le 14 juillet 2016, il y a eu des meurtres ponctuels, les policiers de Magnanville, on peut tous les citer. Mais il faut surtout se souvenir, premier point, moi, c'est ce qui m'a frappé dans l'histoire du 13 novembre, c'est le fait que, justement, quelques jours après le 7 janvier, je le raconte rapidement, mais quelques jours après le 7 janvier, sur le plateau, à l'époque j'étais sur Canal+, au Grand Journal, Alain Boer dit, en parlant de l'islamisme et du djihadisme, mais on sait tous très bien qu'il y a à côté de Bruxelles une banlieue, on appelle ça le Bruxellistan, où les armes d'ex-Yougoslavie arrivent, et il y a du djihadisme, etc. Et ayant entendu ça, j'ai passé des mois après à interroger tous les politiques que je croisais pour leur dire « mais qu'est-ce qu'on fait face à ça ?» Et j'avais des réponses extraordinaires. C'est la souveraineté de l'État belge, la libre circulation, Schengen, ça fonctionne parfaitement, etc. etc. Jusqu'au 13 novembre, où on s'est aperçu qu'une part du commando était rentrée par le flot de migrants qui était arrivé de Syrie. Bref, tout ça pour dire que le travail de renseignement a été fait derrière. C'est-à-dire qu'on a évité, il n'y a plus de commando projeté, et on a évité énormément d'attentats. La question qui suit, c'est d'abord, est-ce que nous avons réellement compris où se situaient les différents foyers du djihadisme, mais surtout, qu'en est-il de la guerre culturelle ? C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que, dans le discours d'Emmanuel Macron, il y a cette idée qui avait surgi juste après, qu'en effet, ce qui a été attaqué, c'est notre mode de vie, les terrasses, la liberté d'écouter de la musique, de se rassembler, de vivre, tout simplement. Mais cette guerre culturelle de défense de notre modèle, de notre civilisation, elle est en train d'être abîmée par le fait que nous sommes petit à petit pris en étau entre les tenants du choc des civilisations, qui considèrent que ce choc des civilisations autorise à mettre à l'index tous les immigrés et tous ceux qui ont une histoire qui n'est pas forcément celle de la France. Et en face de cela, un communautarisme qui est en train de monter, notamment à travers les réseaux sociaux où on a des prêcheurs qui, petit à petit, abîment la capacité même d'intégration. Et ça, on voit qu'en 10 ans, ça a progressé de façon vertigineuse.
Gilles, est-ce que... Je me souviens qu'en 2015, Robert Badinter, après Charlie, avait dit « Il ne faut pas que nous tombions dans le piège politique qu'ils nous tendent. Sommes-nous d'une certaine manière, après, et je conclue, je précise par rapport à ce que vient de dire à la fin Natacha, sommes-nous tombés dans ce piège-là, cette tenaille identitaire dans laquelle peut-être les terroristes voulaient nous faire tomber ?»
Bon, c'est rare que les Français soient quasi unanimes à dire qu'il était nécessaire de commémorer cet événement. On a réalisé un sondage la semaine dernière, 82% des Français, et c'est beaucoup plus qu'en 2016 ou qu'en 2018. Et ce qui me frappe, vous posiez tout à l'heure la question, Thomas, est-ce que la République est plus forte ? Je crois que c'est un événement qui fait nation. Et que c'est quelque chose qui n'était pas acquis, parce que, à la différence des attentats contre Charlie, les divisions ont été beaucoup plus fortes et beaucoup plus rapides après les attentats du 13 novembre. Donc, ce n'était pas acquis.
Sur quel thème ?
Les divisions. Il y a eu une première série de divisions lancées, d'ailleurs, par la droite sur est-ce que on a fait, en termes de sécurité, ce qu'il fallait, commission d'enquête qui a été lancée immédiatement. Puis, il y a eu les débats sur la déchéance de nationalité qui ont divisé aussi la gauche. Donc, l'unité a été moins forte en novembre qu'elle n'était après Charlie. Donc, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident non plus pour une autre raison. C'est que, on le voit encore aujourd'hui, on a une mosaïque de mémoire individuelle autour de cet événement. Selon, évidemment, que l'on a été victime ou proche, selon qu'on connaissait des victimes, selon qu'on était tous les secours, les policiers, les magistrats, les responsables politiques qui ont été au contact de l'événement, selon qu'on y a été un peu plus loin. Moi, j'étais au Stade de France et ma femme était dans un immeuble en face du Bataclan. Selon qu'on était devant sa télévision, on n'a pas construit la même mémoire autour de cet événement. Or, c'est devenu un événement commun, et c'est là où je dis c'est un événement qui fait nation, qui s'est enrichi à la fois par le travail d'écriture, par le travail documentaire, le travail de cinéma, par le procès, procès du 13 novembre, qui a eu un rôle très important, et qui s'est pas seulement enrichi, qui s'est aussi déformé. Et je trouve que c'était un élément qui ressort du travail longitudinal qui a été fait par Denis Péchanski et son équipe dans un livre qui est sorti cette semaine qui s'appelle « Faire face », où on voit, il dit que c'est devenu la matrice mémorielle de tous les attentats. Quand on interroge là aussi dans la durée les Français sur c'est quoi les attentats en France et dans le monde qui vous ont marqué, on voit qu'il y a une double concentration. Les attentats, c'est d'abord le 13 novembre, et c'est de plus en plus le 13 novembre. Et l'attentat du 13 novembre, c'est d'abord le Bataclan, et de plus en plus le Bataclan. Donc, il y a cette concentration, et donc c'est un peu comme ça que ça fait, ça fait nation. Faire nation, Régis Debray disait, c'est faire un « nous » avec un « nom ». Et je crois que c'était exactement ça, c'était ce « nom-là » qui fait nation. Après, je termine par là, c'est aussi un événement, et là je reviens directement sur votre dernière question, qui a questionner notre liberté, où d'un côté, ça a réactivé la valeur de la liberté. Quelque chose qu'on considérait comme acquis, et on a vu à quel point c'était un sujet, et un sujet qui était menacé. Et d'un autre côté, ça a aussi modifié et modifié durablement l'état du droit. Un certain nombre de mesures autour de l'état d'urgence, qui étaient des mesures provisoires, ont été pérennisées. Et ça a modifié aussi, ça m'a frappé dans l'enquête que nous avons faite, que j'évoquais à l'instant, quand vous avez 60% des gens qui disent c'est un événement qui changera pour toujours ma manière de percevoir la vie, et 25% qui disent ça a changé mes habitudes quotidiennes, on voit l'importance aussi dans son rapport au quotidien.
Oui, malgré tout, il faut quand même se souvenir d'une chose qui, moi, m'avait paru vertigineuse, c'est que l'élection présidentielle qui a suivi, moins de 2 ans après, en 2017, a totalement occulté ce qu'ont été ces attentats, qui étaient pourtant, entre le Charlie Hebdo, l'hypercachère, le Bataclan, les terrasses, le 14 juillet, enfin, c'est quasiment 350 morts français, et tout ça a été balayé et on ne l'a pas pensé. Et je pense que nous le payons aujourd'hui par cet étau dont je parlais tout à l'heure. Deuxième point, ces islamistes, ces djihadistes qui ont tiré à la Kalachnikov sur des jeunes gens qui avaient leur âge. Certains, la plupart, avaient passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école française. Moi, c'est quelque chose qui m'obsède depuis ce moment-là. Et je pense que c'est un échec retentissant collectif de nous tous et que c'est ça qui doit absolument être pensé. Et j'ai pas l'impression que 10 ans après, on ait vraiment tiré les conclusions de ça.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Dans la libération de Boualem Sansal, il y a une opportunité incroyable pour l'Algérie de s'apaiser, d'apaiser son lien avec la France et le reste du monde et de construire quelque chose pour elle-même d'abord, pour notre pays, pour nos enfants aussi. Apaiser le lien avec ses écrivains, c'est apaiser le lien avec ses enfants, c'est apaiser le lien avec ses imaginaires, ses contradictions. Donc, il y a de la colère parce que je suis un Méditerranéen, je suis un Algérien, j'ai de l'affect et j'ai de la passion, mais je ne veux pas que cette colère serve à entretenir des tensions.
Kamel Daoud, l'écrivain au micro de France Inter, c'était jeudi, au lendemain de la libération de son ami, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Natacha, au-delà du soulagement évidemment qu'on partage tous, on sent dans le discours de Kamel Daoud un apaisement plus global. Est-ce que cette libération, c'est selon vous le début d'un nouveau cycle de relations, parce qu'elle est souvent cyclique cette relation entre la France et l'Algérie ?
Oui, je pense qu'il y a indéniablement quelque chose à réparer et que, en fait, l'emprisonnement de Boualem Sansal, qui était, on peut le dire, une forme d'otage dans une relation dégradée entre la France et l'Algérie et dans des problématiques plus vastes encore que cela. Donc tout cela va pouvoir être sans doute dépassé. Mais pour que ça le soit, il faut bien comprendre exactement justement d'où venaient ces tensions, comment elles se sont nourries. C'est-à-dire qu'il y a le premier problème qui est que face à une junte de généraux, il faut avoir une politique cohérente, un cap clair, et que c'est ça qui n'a pas été mené depuis plusieurs années. La politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Algérie a été longtemps erratique. On est passé du candidat Macron qui allait sur le sol algérien parler de crimes contre l'humanité, au président Macron qui accusait donc le gouvernement, les gouvernants algériens d'utiliser la rente mémorielle, puis pour réparer la relation avec le Maroc, la reconnaissance de la souveraineté du Maroc, enfin de la légitimité du Maroc sur le Sahara occidental. Bref, et en parallèle, la commission Stora, qui elle était nécessaire et parfaitement légitime, tout cela et tout de même a abouti aux tensions que nous avons vues. Si on ajoute à ça le 7 octobre, qui a renforcé les tensions, parce qu'il faut se souvenir que l'Algérie a été le premier pays après l'Iran à soutenir l'attaque du Hamas, il y a eu donc dans la position de l'Algérie dans les relations internationales quelque chose qui s'est joué et l'emprisonnement de Boualem Sansal a été un symptôme de ça. Alors, on ajoute à ça le fait que Boualem Sansal a reçu plusieurs types de soutien, mais qu'au-delà de ses proches, de son comité de soutien, de Kamel Daoud, etc., il y a aussi le Rassemblement National, le courant Printemps Républicain, des médias comme CNews, qui ont en fait utilisé la figure de Boualem Sansal comme un outil de dénonciation de l'Algérie, ce qui n'a évidemment pas facilité les choses. Et derrière, un ministre de l'Intérieur, nous en avions parlé ici avec Gilles, Bruno Retailleau, qui a fait de la politique intérieure, c'est-à-dire des déclarations fortes ressemblant à des rodomontades et derrière une impuissance, alors que c'est sans doute exactement l'inverse qu'il faut faire. Pas de déclaration, mais de l'action. Dernier point, juste rapidement. Le rôle de l'Allemagne dans ce jeu-là. Évidemment que la France a fait en sorte de passer par ce qu'on appelle un tiers de confiance et que donc tout ça était coordonné. Pour autant, il faut bien comprendre que ça relève aussi de la relégation de la France. C'est-à-dire qu'il est en train de se jouer entre l'Algérie et l'Union européenne une renégociation des accords commerciaux, en particulier sur l'achat d'hydrocarbures, et que dans le cadre de ces renégociations, l'Allemagne est en train de prendre un poids d'autant plus important que la France avait fragilisé sa position. Là aussi, j'espère que tout cela va pouvoir petit à petit se rattraper.
Gilles, repartons vers Boualem Sansal. Qui doit-on remercier pour sa libération ?
Très intéressant. En fait, je vais terminer par votre question en partant d'un mot que Natacha a prononcé tout à l'heure, qui est le mot d'otage, auquel j'ajouterais même otage d'État. Mmh. Et je pense que c'est intéressant de commencer par là et de réfléchir à ça, parce que je lisais un article qui n'est pas ma revue de prédilection, qui s'appelle la Revue de la Défense Nationale, mais qui avait consacré une histoire, un article à l'histoire des otages d'État. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, en fait, dans la Grèce ancienne, à Rome, y compris jusqu'à la dynastie carolingienne, c'était une coutume qui était largement répandue et largement acceptée, mais qui était la dissuasion du fort au faible. C'est celui qui avait gagné la guerre, qui prenait des otages pour s'assurer du respect de la paix.
Intéressant.
Dans la première moitié du XXe siècle, cette pratique, dans le droit international, a été condamnée, a été refusée. C'est les conventions de La Haye, les conventions de Genève de 1949. Or, depuis, la pratique n'a pas cessé, mais il y a deux changements. Le premier, c'est que c'était la dissuasion, et c'est là où on vient à l'Algérie, c'est la dissuasion du faible au fort, et plus du fort au faible, que ça a d'abord été pratiqué par des mouvements révolutionnaires, ou par des groupes terroristes, ou des groupes para-étatiques, et que là, on revient à des otages d'État. Ça a été vrai avec l'Iran, et ça a été vrai, en l'occurrence, avec l'Algérie. Mais avec un effet que l'on voit dans le débat public, et là, je cite la revue, mais on l'a tous vécu, c'est un transfert de responsabilité des preneurs d'otages vers les décideurs. Et c'est vrai qu'on se tourne d'abord vers la France, et pas d'abord vers l'Algérie. Et je trouve qu'on a eu une bonne illustration dans le débat, et les considérations de politique intérieure ont dominé. Elles ont dominé en France, elles ont dominé en Algérie aussi. Mmh. C'est pas un hasard si l'Algérie a décidé de se tourner vers un tiers de confiance, et en l'occurrence vers l'Allemagne, plutôt que de céder au gouvernement français. Est-ce que, pour terminer, on a une chance, c'est la phrase que disait Kamel Daoud, une opportunité incroyable? Moi, je suis moins optimiste sur la relance des relations franco-algériennes. C'est, je pense, formidable pour Boualem Sansal. On attend la même chose maintenant pour Christophe Glaize. Après, je trouve que ce qui s'est passé toutes ces dernières années montre à quel point les choses sont compliquées. Donc, je pense qu'on peut avoir une amélioration. En revanche, une réinvention des relations franco-algériennes, je pense qu'on n'y est pas.
Et vous n'avez pas terminé par la réponse ?
Peut-être qu'il y a quand même une leçon à tirer. Oui. En termes de politique internationale, sur c'est quoi la bonne méthode. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on pense que le rapport de force, que crier fort, est ce qui permet d'obtenir des résultats. Emmanuel Macron lui-même l'avait testé une première fois en suspendant les visas pour l'Algérie, mais aussi pour le Maroc, et je crois, peut-être, je ne sais pas s'il y avait la Tunisie. On a vu que ça avait produit des résultats exactement inverses. Bruno Retailleau a refait la même chose, et son départ, manifestement, a contribué aussi à ce que cette libération se fasse. Peut-être qu'à un moment, il faut tirer des conclusions lorsque un échec se répète plusieurs fois.
Et on va continuer à réfléchir ensemble sur la relation entre la France et l'Algérie autour d'un invité qui le raconte dans sa vie et dans sa propre existence. Place au débat du Grand Face-à-Face.
Le Grand Face-à-Face, le débat.
Gilles, tout à l'heure, citait Régis Debray, faire un nous avec un nom, faire un nous avec un prénom. On va en parler avec El Mouhoub Mouhoud. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, président de l'université Paris Sciences Lettres, mais c'est pour un livre très personnel, mais pas seulement. Vous allez comprendre que nous vous recevons son titre « Le prénom » justement, esquisse d'auto-histoire de l'immigration algérienne aux éditions du Seuil. On va entrer dans votre vie ensemble. On va, alors pardon pour cette... Il y a une formule qu'on a tellement usée jusqu'à la corde, mais qui ici prend tout son sens. De quoi votre prénom est-il le nom? On va se poser la question ensemble. Mais d'abord, une question relative à ce qu'on vient de dire dans le duel à la toute fin avec Gilles et Natacha sur la libération de Boualem Sansal. Comment est-ce que vous, l'enfant de Kabylie, vous avez reçu cette information?
À double titre, j'en suis extrêmement heureux. D'une part, parce qu'un écrivain ne doit pas être pris en otage ou emprisonné, quelles que soient ses prises de position, qui ne sont pas à discuter. Et d'autre part, parce qu'il y a une autre prise d'otage dont parlait Gilles Finkelstein, que je pourrais aussi mettre dans le lot des otages, c'est la diaspora, qui est prise en otage aussi dans ce jeu-là. Et je crois que quand vous disiez tout à l'heure qu'on est dans un étau pris entre deux pôles à la fois minoritaires en plus, hein, et je reviendrai tout à l'heure sur l'immigration, et qu'on est enserré entre ces deux pôles qui s'expriment haut et fort, tandis que la masse de la diaspora algérienne, très francophile, très francophone. Ça n'est pas rien si Boualem Sansal ou Kamel Daoud ou Kateb Yassine ou Mohamed Dib ou toute cette génération, Malek Haddad, il y a toute une génération de francophones écrivains qui ont l'amour de la langue française et cette francophonie et cette franco aussi philie est encore extrêmement tenace. C'est le plus grand pays francophone d'Afrique du Nord et de la région. Donc en fait, la prise d'otages aussi de la diaspora, à travers ce jeu diplomatique, cette instrumentalisation, nous avait conduit avec Benjamin Stora et d'autres à écrire une tribune dans Le Monde d'ailleurs, appelant à l'apaisement. Donc je suis aussi assez optimiste de cette libération, parce que je pense en effet que ça va desserrer l'étau sur cette diaspora dont je fais partie, et qui peut enfin s'exprimer et exprimer la complexité de ces identités multiples. Et c'est un peu l'objet de mon livre aussi.
Et bien justement, on va rentrer dans votre livre, dans votre histoire, en chanson. Ça, c'est Idir, Aviva Inouva, un titre de 1976. Vous avez 16 ans et avoir votre sourire, ça vous renvoie à des images, à quoi par exemple?
Ça me renvoie à une surprise énorme, c'est de voir sur les ondes françaises débarquer d'un seul coup une chanson en langue kabyle, et c'était une vraie surprise. Et tout à coup, tout le monde s'est mis à s'intéresser à cette culture kabyle, cette culture berbère, etc. Que d'ailleurs j'ai découverte en France, en arrivant en France dans les livres en cours de latin. C'est le latin qui m'a fait prendre conscience de l'histoire de la Kabylie. C'est assez intéressant.
Pourquoi?
Parce que c'était
quoi en latin?
Toute l'histoire de l'Empire romain et avant encore, et des différents vestiges qu'on peut avoir ici ou là en Algérie si on visite l'Algérie. Mais donc en fait, ça a été une véritable découverte et ça a fait beaucoup de bien. Et
vous avez 16 ans à ce moment-là, vous êtes en France depuis 6 ans, vous êtes arrivé à 10 ans en France. Vous racontez que encore en Kabylie, votre père, vous n'avez que 7 ans, vous dit qu'il veut que vous deveniez quelqu'un.
Oui.
Ça veut dire quoi, devenir quelqu'un ?
je parle à une professeure ici, c'était quelqu'un, je lui demande, quand il me dit cela, cette injonction, il faut devenir quelqu'un en français, alors je parlais pas le français à ce moment-là, et je lui demande, j'ai eu peur, parce que je me disais devenir quelqu'un d'autre, c'était peut-être quelque chose d'assez inquiétant, et en réalité il m'a dit, en kabyle, l'avdiran, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié, et qui transmet, parce que en langue kabyle, comme en arabe d'ailleurs, même si dans rien à voir l'une avec l'autre, le verbe lire, apprendre, se décline aussi comme le verbe, c'est le même verbe pour signifier le transmettre, enseigner. Donc, et l'injonction finalement de tout enfant kabyle, et d'ailleurs je cite Camus dans ce livre qui dit les kabyles réclament les écoles comme ils réclament le pain, et en effet c'est une chose extrêmement forte qui est assez peu connue, c'est-à-dire que dans, quelle que soit la condition sociale, l'injonction quand on rentre à l'école et quand on a enfin la chance après l'indépendance, je le dis clairement, d'avoir des écoles, eh bien l'injonction c'est Azra, c'est-à-dire que tu apprennes et que tu transmettes. Et c'est ça la valeur finale. Et mon père nous a transmis ça sans aucun message de réussite matérielle. C'était juste la réussite à devenir quelqu'un qui sait et qui transmet.
Ce que vous nous racontez, c'est ce que parfois on raconte comme étant l'histoire d'une ascension sociale ou d'un transfuge de classe. Deux expressions que vous n'aimez pas. Pourquoi ?
Je n'aime pas ça parce que il n'y a pas d'héroïsation dans le changement de classe sociale. Autrefois, les sociologues utilisaient le terme de mobilité sociale, qui me semble beaucoup plus simple et beaucoup plus, disons, parlant, parce que c'est ce que je fais dans ce livre, et je ne pense pas que je l'ai fait vraiment exprès, je ne suis fier de rien, je ne fais que relater la liaison entre l'individu et son champ collectif, que ce soit en Algérie ou en France, d'ailleurs, à travers toutes ces rencontres. Mais il y a quelque chose qui me désole énormément en France, aujourd'hui, sur le débat sur l'immigration, je crois que vous en parliez tout à l'heure, c'est de réduire l'immigration à ce que les économistes appellent les queues de distribution statistique. En d'autres termes, aux pôles minoritaires qui existent et qui sont parfaitement coûteux. La délinquance dans les cités, la montée des communautarismes dont vous parliez, d'un côté, dont les origines ne sont pas liées à l'échec de l'école. C'est ça qui est assez dramatiques, ne sont pas liés à l'échec de l'immigration ou de la politique d'immigration. Ils sont liés à la désindustrialisation massive. Je rappelle que le Val-Fouret a été construit à Mantes-la-Jolie par Renault. Et quand il y a eu la désindustrialisation, les populations sont restées assignées à résidence, sans infrastructure, et l'échec des politiques d'aménagement du territoire est criant. Mais c'est quand même pas la majorité de l'immigration et de ses descendants. C'est une minorité. C'est dans la courbe, ça se trouve en bas de la courbe.
Vous avez dit voilà.
Que de distribution.
Que de distribution.
Et puis de l'autre côté, on a les héros du football, les héros du rap, et cette masse de gens dont je fais partie, c'est pour ça que je parle pas de transfuge de classe, mais de continuité, qui ont réussi grâce à l'école républicaine, il y a un peu de masochisme à ne pas reconnaître, la réussite de l'école en France qui a réussi à intégrer des millions de gens. Donc tout ça, c'est une réussite et l'école a traversé toutes les crises économiques, les crises sociales, les crises... en restant debout, en fait. S'il y a quelque chose qui est resté debout, c'est l'école, malgré les difficultés. Je pense qu'il y a des réparations à apporter à l'école, bien entendu, mais qui ne sont pas forcément liées à la question de l'école elle-même, mais de son environnement.
Gilles.
D'abord, j'ai pris du plaisir et de l'intérêt à vous lire, parce que c'est un livre qui est à la fois simple, direct, sincère, et aussi profond et érudit, qui est un livre sur l'immigration, et une immigration dont la vie ne commence pas quand on arrive dans son nouveau pays, mais qui en retrace une histoire plus longue, donc sur les différentes générations, sur ceux qui restent et ceux qui partent. C'est un livre aussi sur la France, sur les enseignants, vous l'avez évoqué, sur un certain nombre de structures de socialisation, sur les préjugés aussi, je sais pas, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais je voudrais commencer sur le prénom, parce que c'est aussi un livre, ça, c'est le titre, et le prénom, c'est aussi un livre sur votre prénom. Je me souviens que la première fois que nous nous sommes rencontrés, nous étions dans un dîner un peu chic, dans lequel il y avait des responsables d'entreprise, du monde de la finance, de la haute administration, responsables politiques, et vous avez...
On n'y était pas avec Natacha.
Et vous avez utilisé une formule que je retrouve dans le livre, et donc, ça m'a, pour expliquer votre nom et votre prénom, vous avez dit à tout ce beau monde, le B avant le D, le B c'est Elmo Houb, avant le D de L de Mouhoud. Le B avant le D, c'est l'ordre alphabétique. C'est facile à retenir. Je fais l'hypothèse que vous êtes alphabétisé. Et je dois dire que dans ce cadre-là, cette formule avait produit une espèce de jubilation intérieure qui avait fait la réussite de ma soirée. Je suis frappé à la lecture de votre livre de voir que quand même c'est un fil rouge, cette question du prénom et puis de la répétition entre le prénom et le nom qui revient. El Mouhoub, c'est celui qui reçoit, hein, vous dites, c'est le prénom de votre grand-père paternel, vous dites c'est à la fois un sacerdoce et une promesse, et ça revient à beaucoup de moments. Vous racontez le dernier cours que vous avez à Alger, avant de venir en France, il est consacré à vous, le dernier cours à l'école. Et la question, c'est est-ce que vous allez abandonner, est-ce que vous allez trahir en abandonnant votre prénom? D'ailleurs, à plusieurs moments, vous montrez que vous y réfléchissez.
Vous ça devient Elias. Mouhoub devient Elias Mouhoub à un moment donné.
Etc. Et cette histoire du prénom, elle se prolonge aussi avec le prénom de votre deuxième fils, qui a un prénom français, Théo. Et vous montrer à quel point c'est compliqué avec votre famille d'origine. Et donc vous qui, par la force des choses, avez plus réfléchi à cette histoire de prénom que nous, qu'est-ce qui se joue? Est-ce que c'est un rapport à soi? Est-ce que c'est un rapport aux autres? Est-ce que c'est un rapport à la famille?
Alors, vraiment, c'est une question qui est au centre. Effectivement, le prénom, c'était pour moi un prétexte et non pas un texte, mais bon, c'est tout de même, en s'appelant El Mouhoub Mouhoud, c'était assez drôle de commencer par de titrer et d'avoir un sous-titre.
C'est un titre génial d'ailleurs.
Esquisse.
Le prénom, c'est un titre génial, je trouve.
Mais de quoi est-il le nom, en effet? Alors, moi, je n'ai aucune fierté à porter ce prénom, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ce prénom, même en Algérie, c'était pas seulement en France, donc la répétition, j'ai toute une série de gens auxquels je me référais, Yewene, Michel, etc. Et puis finalement, eux, au moins, avaient la chance de ne pas avoir ce détail diabolique qui missait entre mon prénom et mon nom, les séparant par une seule lettre, B et D, à la sonorité commune en plus.
Oui,
et ce qui m'obligeait à trouver des mots d'esprit en permanence pour m'en sortir en disant je fais l'hypothèse que vous êtes alphabétisé, c'est le B avant le D. J'aurais bien aimé pouvoir le changer, ça vraiment, mais c'est compliqué. Une histoire de prénom, c'est l'histoire collective, c'est l'histoire des origines, et aussi c'est une démonstration de la possibilité réelle, très répandue, de la conciliation de plusieurs couches culturelles. Moi je parle le kabyle, je parle l'arabe dialectal, je suis alphabétisé en arabe littéral, je parle, ma langue de travail c'est l'anglais, je travaille évidemment, ma langue quasi maternelle aujourd'hui c'est le français, mais tout ça est tout à fait compatible, et ce qui me désole aussi, c'est la réduction auquel on ramène les individus à une seule dimension. En réalité, on peut être un amoureux de la France, de la langue française, et de cette littérature, Didier, mais aussi de Brassens, et tout en étant dans ce cortège de contradictions qu'on transporte en soi. Et avoir des contradictions n'est pas un problème en soi, c'est simplement la manière d'avancer dans la vie, c'est de transcender ces contradictions. Et donc, pour moi, mon prénom aussi fait référence à toute l'histoire de la Kabylie, l'histoire des sociétés kabyles qui sont partagées entre les sociétés maraboutiques, les premiers berbères convertis à l'islam, et qui est un islam fondé sur le soufisme, et qui est un islam syncrétique, qui était un rempart à l'islamisme en Kabylie d'ailleurs, très fortement. Je raconte des anecdotes où on a essayé de venir changer les règles parce que c'est un islam qui a épousé le paganisme, les rituels, etc. Ça, c'est aussi quelque chose que ne savent pas, finalement, les Français en général, alors qu'on a un département français qui a été colonisé pendant plusieurs 130 ans, mais on connaît assez peu de choses sur cette histoire que nous transportons avec nous. Et donc, moi, je n'ai pas de difficulté à essayer de transmettre cela. Et donc, ce prénom-là, eh bien, est l'histoire aussi de l'immixion institutionnelle de l'administration coloniale dans l'anthroponymie, la manière d'appeler les gens locales, parce que en Kabylie, la structure du groupe est très forte, donc on s'appelle El Mouhoub, fils d'un tel, mon père s'appelle Ariski, appartenant à tel clan et appartenant à telle tribu. Et cette déclinaison du prénom fils d'un tel, etc., Haït, quand vous trouvez Haït, c'est forcément Kabylie, ça veut dire deux appartenant à tel. Et c'est ça qui a été arrêté net en 1882 par une loi qui s'appelle la loi sur les indigènes musulmans, et qui a consistait à donner, à obliger les indigènes à prendre des patronymes pour deux raisons essentielles. Un, collecter l'impôt n'était pas possible lorsqu'on avait des grands groupes, et donc il fallait réduire l'anthroponymie à des cellules familiales, et puis deux, surveiller et contrôler aussi la population indigène. Donc c'est la raison pour laquelle on a, j'hérite à la fois d'un prénom qui est lié à l'anthroponymie orale, et puis l'anthroponymie écrite qui s'est imposée comme une loi forte, et ma grand-mère qui m'avait donné le prénom de mon grand-père est allée voir le scribe en lui demandant de le mettre, même si ma mère avait quand même décelé un risque de répétition.
Vous dites que c'est la seule. Vous dites que c'est la seule à avoir vu cette répétition.
C'est ma seule, absolument.
Natacha.
Alors, ce livre est d'une sensibilité, d'une intelligence, d'une finesse. Il est absolument passionnant. Et ce que vous venez de raconter se mêle à quelque chose de nécessaire, c'est-à-dire les récits sur ce qu'a été la colonisation française. Vous évoquiez au tout début de cet entretien, en un mot, le fait que les écoles sont arrivées après la fin de la guerre d'Algérie, parce que là aussi, la façon dont la misère a été organisée en Kabylie, vous le racontez tout cela, j'ai pas le temps de vous interroger dessus, mais c'est vraiment, il faut aller lire ça. Je pourrais aussi vous parler du débat sur l'école, parce que moi je tiens beaucoup à cette statistique que j'avais lue, qui est que, en fait, c'est pas le niveau social des parents, la façon dont ils aident leurs enfants qui est déterminante pour l'avenir scolaire, c'est le rapport que les parents entretiennent avec l'école. Et je pense que dans cette question, ce débat sur la méritocratie qu'on pourrait avoir, tout ça est au cœur. Mais je voulais du coup vous interroger sur un autre élément. Vous évoquez page 178, la question des générations d'immigrés. Il y a un mot là-dessus. Il y a un mot pour dire que votre génération à vous et les amis que vous avez regardent les jeunes générations, notamment celles de 2005 qui ont réagi à la mort de Ziad et Bouna et qui ont abouti aux émeutes de 2005, comme une génération autre, différente. Et j'aimerais que vous explicitiez cette différence et peut-être sur la question que vous avez évoquée à l'instant du fait que vous avez des strates identitaires et que vous assumez ces strates identitaires. Est-ce que c'est ça la différence ? Une espèce de resserrement identitaire ou au contraire un désert ?
Oui, alors non, c'est une très très bonne question parce que effectivement, quand en 2005 les émeutes ont eu lieu, j'ai eu une sorte de trouble et j'ai appelé un de mes vieux copains pour un dîner, en me disant comme ils habitaient en banlieue, je pensais qu'ils étaient plus liés à cette génération que moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était aussi coupés. En réalité, c'est davantage une rupture de contexte que de valeurs. Je vais m'expliquer. Quand je raconte, moi, ma période des années 70 d'intégration en France, c'est une période encore de croissance économique. C'est encore une période de mobilité géographique. Il n'y avait pas d'inégalité territoriale. Ce que l'on va subir à partir de la seconde moitié des années 80, c'est l'apparition de ce que les États-Unis ont connu dans les années 50, d'une triple inégalité sociale, territoriale et ethnique, il faut bien le reconnaître, dans ces zones qui sont pas majoritaires, loin de là, mais qui sont coûteuses dans l'incapacité des politiques publiques à résoudre ces questions-là. Donc, en effet, il y a une coupure il y a une coupure qui est dramatique parce que les mécanismes qui permettent la sortie de ces verrous, de ces zones, se sont épuisés. Et se sont épuisés à cause de la désindustrialisation. C'est pour ça que je pense que réindustrialisation est quelque chose de fantastiquement important, pas seulement pour des questions de points de PIB, évidemment, mais pour des questions aussi d'entraînement, d'effet d'entraînement. Donc c'est ça la coupure. Et je crois que c'est très bien documenté. D'ailleurs, Éric Morin, que je cite, le montre très bien comment les populations sont parties de classe moyenne. Et il y a un livre de Stéphane Beau et de Michel Pialou qui a été publié en 2002 qui s'appelle « Violence urbaine, violence sociale, genèse des nouvelles classes dangereuses ». Paru chez Fayard à l'époque. Moi aussi, j'avais publié un livre chez Fayard, ce que je ne ferai plus. À ce moment-là, il expliquait très bien comment, durant la période, pour répondre vraiment à votre question, 88, 89, 90, Rocard, mis Premier ministre, période de croissance fantastique de l'emploi. Et dans la région qu'il enquête, Sochaux-Montbéliard, des gens ont été embarqués par le marché du travail et sont sortis des cités et sont allés travailler beaucoup en intérim. Et quand il y a eu le retour de la crise, d'un seul coup, les mécanismes de renfermement aussi se sont passés. Donc je crois vraiment que la question économique et la question sociale, plus que les questions identitaires, sont au centre de difficultés que nous observons aujourd'hui. Et encore une fois, il faut regarder regarder quand même aussi pour qu'on trouve des solutions, parce qu'il y a des solutions. Si c'est des codes de distribution statistique, ce sont des marges qui sont coûteuses, mais du coup, on peut quand même concentrer des politiques publiques sur ces marges pour essayer d'en sortir. Et en oubliant la masse de gens qui sont des réussites, en les rendant invisibles, comme c'est le cas dans les médias la plupart du temps, je crois que c'est pour ça que je parle, moi, de reconquête de la subjectivité en essayant de d'écrire ce livre, parce que d'un seul coup, je me mets à témoigner et à écrire en tant qu'intellectuel, mais parce que je trouve qu'on a vraiment besoin de rendre visibles des gens qui sont simplement le produit de la réussite scolaire.
On ne parle que des exceptions ?
On ne parle que des troubles liés aux marges. Voilà.
Gilles.
Vous écrivez que vous avez traversé vos années de carrière académique sans avoir subi de véritables discriminations. Et ce qui m'a frappé, moi, à la lecture de votre récit, c'est la récurrence et la violence des préjugés et des préjugés racistes. Je trouve avec une violence absolument incroyable. Vous arrivez à l'école Thomas Lady, vous avez 10 ans, vous êtes accueilli par l'instituteur qui explique qu'il vient d'Algérie, ce doit être un cancre. Peu de temps après, l'orientation mécanique compte tenu de votre origine, c'est une sixième de transition. Et un peu plus tard, vous racontez, alors que vous êtes un excellent élève en seconde, une orientation vers une filière technologique, parce qu'il faut que vous travailliez rapidement selon ceux qui doivent, dans la vision de ceux qui doivent vous orienter. Et même, encore plus tard, vous allez raconter un déjeuner chez un général avec une amie, une jolie blonde, et on voit tout le mépris de classe et de race. Et donc, c'est marrant que vous disiez en même temps, j'ai pas été victime de discrimination. Oui, oui. Est-ce que c'est encore concevable aujourd'hui ? Est-ce que sur ce point-là, on n'a pas fait quand même des progrès considérables ?
Alors, je vais répondre de manière courte, parce que c'est une faiblesse. Mais bon, j'ai un biais aussi d'explication.
Ah, mais allez-y. Hein.
Mais bon, c'est une excellente question. Tout à l'heure, je disais que ce livre est la restitution de la complexité. En même temps que je subissais ces drames racistes, en effet, les mêmes personnes pouvaient me sauver. C'est ça qui est extraordinaire. Je veux dire, et j'invite aussi les jeunes à ne pas se positionner dans une posture de victime, parce que c'est ça qui est pire. Parce qu'on fait ce que les économistes appellent la prophétie autoréalisatrice. À force de penser qu'on est l'ennemi de l'autre, on finit par reproduire les mécanismes que l'autre attend de vous. D'ailleurs, c'est tout à fait commun que si vous vous comportez en insultant quelqu'un qui vous parle mal, eh bien, vous avez été pris au piège de ce que
l'on disait. C'est parfois des mécaniques de la délinquance.
Exactement. Hein. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai subi... les années 70 étaient bien plus racistes qu'aujourd'hui. Je crois qu'il faut le savoir. Oui. On parle de système. Aujourd'hui, certains disent... le racisme est un système d'État. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, le moindre parole raciste est condamné, antisémite est condamné, etc. On fait des articles 40 immédiatement. Je suis président de l'université, donc je peux en témoigner. On ne laisse rien passer aujourd'hui. Oui. À l'époque, c'était tout à fait naturel de proférer ce que le directeur de l'école dit. Votre camarade vient d'Algérie, ça doit être un cancre. Et donc, il me met derrière. Et c'était ma chance. Parce que du coup, je me suis retrouvé avec un fils d'immigré hollandais et qui m'a aidé, qui était lui un cancre. Mais qui m'a aidé à m'habiller un peu mieux. Et puis, ensuite, l'instituteur pied-noir qui était raciste, qui me frappait, qui en plus transportait cette vulgate kabyle arabe, distinguant les races. Je cite aussi un livre, un manuel de 1922 qui dit « La population algérienne est composée de trois composantes, les Européens assez nombreux, puis les indigènes, et parmi les indigènes, vous avez les kabyles industrieux, et puis les Arabes oisifs et fainéants, quelque chose comme ça. » Enfin, c'était vraiment une situation qui était répandue. On était après la guerre d'Algérie, donc il y avait les résonances aussi de ce racisme colonial, et ça a fini par disparaître. Donc aujourd'hui, la situation est un peu plus apaisée. Et finalement, ce que vous dites, Gilles, à propos du fait que j'ai subi toutes ces barrières, mais je les ai toutes dépassé d'une certaine manière, grâce à l'aide de gens. Quand il s'agissait de s'orienter en sixième transition, c'est ce pied noir instituteur raciste qui m'a sauvé, qui a dit à mon père, mais non, votre fils a des capacités, il faut absolument lui faire redoubler son CM1, et vous allez voir, il va repartir. Il a eu tout à fait raison, et je lui dois aujourd'hui une reconnaissance, parce que sans lui, je ne serais pas là, hein, certainement. Et puis, en sixième, le passage en seconde T1 pour être ingénieur aussi a été... Je suis revenu dans la classe classique scientifique. Voilà, à chaque fois, j'ai réussi à passer ces barrières, parce que j'ai été aidé par ces gens formidables qui étaient les professeurs.
Éloge de l'école, éloge de la République, éloge de l'identité, éloge des identités.
Merci
beaucoup d'avoir été notre invité. El Mouhoub, Mouhoud, le B et le D, on est alphabétisés au grand face-à-face. C'est à lire aux éditions du Seuil. Merci Gilles et merci Natacha. Merci donc à l'équipe du grand face-à-face alphabétisé. Mathilde Clatt à la préparation de l'émission. Paul Laporte à la réalisation. Aujourd'hui, Loïc Frapsos à la technique d'une émission à laquelle vous pouvez vous abonner en podcast sur l'appli Radio France. Quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour la suite et la fin de Djihadisme, anatomie d'une menace avec Hugo Micheron. Cette conversation, vous pouvez déjà l'écouter en podcast sur l'appli Radio France.